BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Pierre Ferracci, je rappelle, vous êtes donc le président du groupe Alpha. Pierre Ferracci, beaucoup de questions à vous poser parce que le groupe Alpha, pour ceux qui, enfin, c'est rare les gens qui ne connaissent pas, mais vous soutenez, vous êtes plutôt du côté des syndicats, on peut dire ça comme ça, voire du côté de la CGT. Et c'est vous notamment qui travaillez beaucoup sur toutes les restructurations en cours. Vous avez énormément de dossiers.
On travaille avec tous les syndicats et tous les représentants du personnel. On accompagne aussi les entreprises. En certains cas, il y a beaucoup de dossiers de restructuration. Il y en aura beaucoup à l'automne, mais ça a déjà commencé. Et avec des risques de montée du chômage qui sont extrêmement forts. L'INSEE prévoit des choses un peu moins négatives que ce qui était envisagé il y a encore quelques semaines. Mais enfin, ça va être terrible. Le passage de l'automne va être difficile. Et il faut que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement de ces restructurations, s'occupe aussi de l'entrée des jeunes sur le marché du travail et regarde de près ce qui va devenir des prêts garantis par l'État qu'il va falloir à un moment donné rembourser et que beaucoup d'entreprises ne pourront pas rembourser même au bout de 4 ou 5 ans.
Qu'est-ce qui vous frappe lorsque vous regardez, c'est pas la première crise que vous traversez, celle-là elle est quand même très particulière avec cet arrêt brutal bien sûr de l'activité. Qu'est-ce qui vous frappe ?
Ce qui me frappe d'abord, je vais donner une tonalité un peu optimiste, c'est que des deux côtés, du côté des représentants du personnel et des directions, il y a une prise de conscience de la gravité de la crise. Et je trouve que dans la façon d'essayer d'en sortir aujourd'hui sur le plan économique et social, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de négociations et des formes de compromis, de consensus qui sont intéressantes. La deuxième chose qui me frappe, c'est que dans beaucoup de secteurs, on ne sait pas encore où on va aujourd'hui. La reprise va être tortueuse, chaotique, pas du tout linéaire, et ça rend les choses difficilement prévisibles. Et ça va poser un gros problème à l'État qui a garanti 90% des prêts qu'il a octroyés pour passer le cap difficile. Il y aura forcément à renforcer les fonds propres ou les quasi-fonds propres des entreprises qui en ont bénéficié. Il n'y a pas qu'Air France et Renault dans le coup, on en a beaucoup parlé. Donc il y a un enjeu pour les banques et pour l'État qui, à mon avis, devra être au cœur des discussions d'ici l'automne et dans le plan de relance du gouvernement.
Et on en parlera bien sûr dans tout à l'heure avec Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, parce que c'est lui qui pilote notamment ses prêts garantis par l'État. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises sont dans la capacité, c'est ce que vous observez, de rembourser. On est bien d'accord.
Oui. Elles pourront étaler sur 4-5 ans, mais le problème restera le même au bout du compte. Oui. Alors ça peut être très, très différent d'une entreprise à une autre ou d'un secteur à un autre. Mais je crois qu'il y aura un effort de la part des banques et de l'État pour renforcer les fonds propres des entreprises. Autrement, on aura des difficultés d'investissement et des problèmes d'emploi supplémentaires qui viendront se greffer à ceux qui sont déjà.
Ouais. Pierre Ferracci, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que il y a quand même un dialogue social qui s'est créé face à ces difficultés. Il est tendu en France, on le sait. C'est pas notre marque de fabrique, mais là vous dites.
Mais on le dit pas assez. Il est plutôt de qualité en ce moment. Alors il y a toujours des points noirs et des relations qui sont plus compliquées qu'ailleurs. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de cette crise inédite qui s'est faite des deux côtés, du côté des directions d'entreprise et du côté des représentants du personnel et des syndicats, et beaucoup de bonne volonté pour trouver des équilibres. Alors pas facile, quand il y a des accords de performance collective à mettre en place, c'est jamais simple. Mais je crois qu'il y a cette bonne volonté qui est plutôt de bon aloi.
Justement, sur ces accords de performance collective, est-ce que vous en voyez qui sont signés, qui ont été signés avec des baisses de salaire ?
Oui, il y en a.
Ça se discute chez Valeo, d'autres endroits.
On en accompagne. Parfois, il y a des baisses de salaire. Il faut au moins qu'il y ait un retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que quand l'entreprise ira mieux, les salariés à qui on demande des efforts retrouvent ce qu'ils ont lâché et aille même un petit peu au-delà si l'entreprise se porte vraiment bien. Ce sont des négociations difficiles, mais c'est là qu'on voit que les bons esprits se rencontrent et que dans bon nombre de cas, on arrive à signer des accords de qualité.
Ouais. Est-ce qu'il y a, certains disent cela, est-ce qu'il y a des effets d'aubaine ? Est-ce que vous voyez des entreprises qui profitent un peu
quand on prend des mesures aussi brutales, aussi radicales que ce qu'a fait l'État en matière de chômage partiel, en matière de prêts garantis par l'État, il y a toujours des effets d'aubaine. Et il faut les chasser. C'est pas facile. Par exemple, sur les prêts garantis par l'État, il y a des banques, elles ont joué le jeu dans la plupart des cas, mais dans certains cas, elles ont transformé en prêts garantis par l'État des prêts qui étaient en cours de négociation.
Oui.
L'avantage pour elles, c'est que l'État prend 90% du risque. Bon, en matière de chômage partiel, s'il y en a qui ont abusé, le ministère du Travail il a dit récemment, il faut les sanctionner. Il n'est pas normal qu'on aille chercher de l'indemnisation publique quand on peut éviter de le faire. Donc il y a des effets d'aubaine, mais globalement, je crois que le système économique a joué le jeu pour passer la crise.
Mais en termes de suppression d'emplois ?
En termes de suppression d'emplois, il y a des entreprises...
Quand vous voyez beaucoup, je sais pas, Airbus, Renault, peut-être ici aussi à BFM...
Il faut faire beaucoup d'efforts pour maintenir l'emploi chaque fois qu'on le peut, y compris avec des schémas de transition qui sont un peu innovants. Et puis là aussi, il faut éviter que certains profitent de la crise sanitaire pour accentuer ce qu'ils avaient déjà en tête.
Et ça, vous observez ça ?
Oui, bien sûr, mais encore une fois, les effets d'aubaine et les dérapages sont marginaux par rapport au jeu normal qu'ont joué les uns et les autres, des deux côtés. Ouais. Et je parlais des banques, il peut y avoir quelques effets d'aubaine, mais globalement, les banques, avec l'appui de BPI France et de l'État, ont joué le jeu pour passer ce moment un peu difficile, et même très difficile pour l'économie française.
Pierre Ferracci, je vais vous poser une longue question, comme ça vous pourrez peut-être boire une gorgée d'eau, mais c'est vrai qu'ici, les studios, l'air est toujours très sec, moi-même, souvent, je tousse. On voit que le dialogue social est en train de reprendre. Ce matin, j'en savais François Omri de la CFE-CGC, Laurent Escure, Laurent Berger. Il y a quelque chose qui se met en route. Il y a ce nouveau gouvernement. Et Jean Castex, ce matin, il a dit tout va être mis sur la table. Question de méthode. On va parler des réformes des retraites, de l'assurance chômage ensuite. Vous le croyez ? Vous dites banco. Vous le connaissez, Jean Castex, j'imagine ?
Je le connais un petit peu. C'est un homme...
Un homme du social. Donc, un
homme qui a eu des responsabilités dans le domaine social et qui sait de quoi il parle du côté des partenaires sociaux. Bon, après, moi, je pense comme l'ensemble des partenaires sociaux, du MEDEF à la CFDT, en passant par la CGT, la CFE-CGC ou Force ouvrière, que rediscuter des retraites aujourd'hui n'est pas tout à fait raisonnable. Il y a une énergie à consacrer aux problèmes d'emploi, à l'entrée des jeunes sur le marché du travail, aux problèmes de restructuration que j'ai évoqués, qui fait que le débat sur les retraites ne va pas être très serein. Alors j'avais dit à une époque qu'il fallait peut-être en faire un débat de la prochaine campagne présidentielle. On m'avait dit que là on prenait trop de risques en se rapprochant de l'échéance présidentielle. Mais la crise du coronavirus nous en a rapprochés. Je ne crois pas qu'à l'automne, tout le monde soit préoccupé par l'âge pivot ou par la façon de gérer les retraites dans quelques années.
On va pas se refoutre sur la gueule. Ça c'était l'expression de Laurent Berger. Mais ce matin quand même, il a apporté des à l'Assemblée nationale, là, il y a quelques instants, il a apporté des précisions quand même, le Premier ministre. Il a dit, il y a deux aspects. Il y a la réforme systémique, la réforme de fond. On ne va pas renoncer, mais on va prendre notre temps. Ça, c'est le côté système universel à point. Mais en revanche, il y a urgence sur le côté financier, avec ce trou qui s'élève à 30 milliards au lieu de 4 milliards. Donc là, il faudra qu'on prenne des mesures. Et rapidement, et ça sera la semaine prochaine.
Oui, mais la difficulté...
Il distingue les deux. Pas évident, c'est pour ça que ma question est un peu piégeuse. Pas évident de distinguer.
Non, mais la difficulté qu'aura le Premier ministre, c'est de donner le sentiment à ceux qui disaient que derrière la réforme systémique, il y avait d'abord un enjeu de court terme de rééquilibrage des comptes.
Oui, ça c'est
énergique. Il va leur donner un petit peu raison en disant, bon, on oublie la réforme systémique parce qu'elle est l'objet de désaccords et de divergences profondes, mais on se cale. Bien sûr que la crise a fait des dégâts, y compris dans le régime de retraite, mais il faut faire attention, quoi. Il ne faut pas essayer de relancer un débat qui a été extrêmement peu serein dans la dernière période, juste après les Gilets jaunes, de façon intempestive, alors qu'encore une fois, la mobilisation sur l'emploi doit être maximale.
Sur la réforme de l'assurance chômage, là, pour le coup, on est dans un contexte complètement différent, il l'a souligné. Donc, pour l'instant, elle est décalée, on va dire ça comme ça. On marque, on appuie sur pause.
On a bien vu que, oui, il faut appuyer sur pause ou en tout cas prendre des mesures qui sont en rapport avec la situation exceptionnelle qu'on connaît. Les mesures de chômage partiel en font partie. La PLD, les mesures d'activité partielle de longue durée, ça en fait aussi partie. Donc il faut regarder comment la nouvelle réforme qui était mise en place, contre l'avis de beaucoup de partenaires sociaux, peut s'adapter à l'air du temps et coller aux enjeux du marché du travail. Encore une fois, il y a 700 000 jeunes qui vont arriver, qui vont frapper à la porte d'entreprises, qui sont elles-mêmes en train de restructurer et de licencier assez massivement dans certains secteurs. Donc il faut bien évidemment regarder la réforme de l'assurance chômage avec les yeux de la crise inédite que nous vivons et ne pas faire des choses intempestives par les temps qui courent.
Pierre Ferracci, je reviens un petit peu sur les dossiers que vous voyez, parce que vous êtes vraiment un opérationnel, donc c'est... Je voulais me poser la question, qu'est-ce qui vous frappe ? Mais si vous aviez un point à mettre en avant, ça serait quoi ? Par rapport à ce que vous observez ? Moi, j'ai envie d'un témoignage.
Le témoignage, il est simple. C'est que, je crois, pour avoir dit que le dialogue social ces derniers temps, comme l'ont dit certains syndicats, était un peu malmené. Et que les ordonnances Macron, sur ce plan-là, n'avaient pas tapé juste. Il y a des choses qui sont à côté de la plaque en matière de dialogue social depuis 2-3 ans. Je crois qu'on a l'occasion inespérée de le remettre au cœur du village à l'occasion de cette crise. Mmh. Parce qu'il y a une prise de conscience qui est radicalement nouvelle, encore une fois, des deux côtés. Du côté des DRH et des directions générales, du côté des représentants du personnel et des organisations syndicales. Profitons de cette opportunité pour remettre les pendules à l'heure et pour faire en sorte que toutes les mesures, et parfois des mesures délicates et douloureuses, soient prises avec une concertation et une négociation maximale. Mmh. Moi, c'est ça qui me frappe aujourd'hui. Il y a plein de bonnes volontés. Il faut peut-être que du côté de Jean Castex, son nouveau gouvernement, peut-être d'Elisabeth Borne, la nouvelle ministre du Travail, on se dit que c'est l'occasion de corriger des choses qui n'ont pas été très bien mises en œuvre dans la dernière période.
Par exemple, l'apprentissage a été une bonne réforme.
L'apprentissage et la formation professionnelle ont peut-être été une bonne réforme, même s'il y a des choses à compléter, même si le compte de formation professionnelle ne sera pas, en termes de moyens, à la hauteur des problèmes posés par la crise. Je crois qu'en matière de dialogue social, on a tapé un petit peu à côté de la cible et qu'il est temps de remettre les syndicats et le patronat sur le terrain des entreprises, mais peut-être aussi sur le terrain des branches, voire même si Geoffroy Roux-de-Bézieux y est un petit peu hostile sur le plan interprofessionnel, autour de la table pour parler de télétravail, pour parler de chômage partiel là où il le faut, pour parler d'accords de performance collective. Il faut beaucoup, beaucoup de consensus et de recherche de compromis.
Oui. Toute dernière question, on va parler un petit mot du foot quand même, parce qu'on n'en parle jamais ensemble.
C'est vrai.
Mais vous êtes.
Il y a des enjeux économiques pourtant.
Oui, mais pourtant un enjeu économique énorme. Et puis en plus, j'adore le foot. Donc le Paris FC, vous êtes propriétaire. J'y vais cash. On dit que vous cherchez un partenaire et qu'en plus, il y a des acheteurs.
Ah, mais j'ai dit depuis longtemps que j'allais ouvrir le capital. Ouais. Donc je vais le faire.
Aux Barénies,
je suis en phase de négociation. Je ne dis jamais.
Alors, vous pouvez nous dire avec qui
Je ne dis jamais.
Avec les Barénies.
Ça sera des partenaires étrangers dans un premier temps, nationaux dans un deuxième temps. Je veux garder une coloration national et même régional à ce club, donc il est hors de question de le vendre. Par contre, dans la crise économique que traverse aussi le football, je suis le premier à dire qu'il faut renforcer les fonds propres.
D'accord.
J'en ai mis quelques-uns dans ce club, je ne peux pas tout faire, donc j'ouvre
et
le capital.
Et quelle échéance ? C'est quoi les échéances ? On aime bien les échéances sur BFM 1 ?
Dans les semaines qui viennent, avant la période estivale qui me permettra de me reposer un petit peu dans le domaine du foot comme dans le domaine du social.
D'accord, avant la fin du mois de juillet.
Voilà. Oui, voilà, avant la fin du mois de juillet.
Bon, d'accord, ok, on a compris. Ben, merci beaucoup. Voilà, ça y est, on a une info. Voilà. Merci Pierre Ferracci, donc le patron du groupe Alpha et donc du club parisien de football, le Paris FC, qui n'est pas encore le PSG, mais peut-être grâce à l'ouverture du capital le sera un jour. Merci.
On est encore
beaucoup.
Loin. Merci.
Dans un instant, on parlera de Pascal Boniface. Lui, c'est sur la géopolitique du Covid 2019. En fait, c'est même de la Covid. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'Arrache avec Pascal Boniface. Merci d'être là, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques que vous avez fondé. Pascal, vous publiez Géopolitique du Covid-19. Bah, on dit de la Covid, vous savez, selon la
Française. L'usage médiatique, c'est plutôt du Covid.
Bah, oui, mais l'usage du français, c'est de la Covid, parce que c'est un acronyme. Voilà. Hein, donc voilà, pour votre éditeur aux éditions Erol. Et alors, bon, et préfacé par ce qui est quelqu'un qui est devenu incontournable, bien sûr, c'est Roselyne Bachelot. Vous avez du nez.
Auparavant, de toute façon.
Ouais.
Non, Roselyne Bachelot est vice-présidente de notre conseil d'administration, de l'IRIS, et donc en plus elle s'intéresse aux questions géopolitiques depuis très longtemps, et puis parler d'une pandémie, elle était bien placée pour faire cette préface qu'elle a gentiment accepté de rédiger.
Oui. Un mot d'abord sur le football, parce qu'on a parlé avec Pierre Ferracci, donc le patron du Paris FC. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté en France la Ligue 1, le football ? Là, on peut regarder la Première Ligue, on peut regarder
Portugal, on peut regarder les quatre autres grands championnats européens. C'était une décision. Le Premier ministre à l'époque l'a d'ailleurs expliqué. C'était
pour faire un exemple. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous avez quand même écrit le livre de référence sur le football.
Je pense que c'est une exception qu'on aurait pu effectivement ne pas donner cet exemple. Peut-être préserver l'avenir, et avoir un peu plus de prudence. Bon, une fois qu'elle est prise, les instances du football sont légitimistes. Lorsque le pouvoir politique dit quelque chose, un centre du football ne s'élève pas contre cela, et donc elles ont appliqué la règle qui avait été définie par le gouvernement.
La question, c'est est-ce qu'il y a une géopolitique de la Covid.
Alors, en tous les cas, le Covid-19 aura eu des répercussions géopolitiques extrêmement importantes.
Ouais.
Extrêmement importantes, aussi bien sur le plan du multilatéralisme, qui était déjà en crise auparavant, mais la crise s'est accentuée, aussi bien sur le plan de la mondialisation, est-ce que l'on dit stop ou encore, et puis dans le grand duel qui s'annonce entre la Chine et les États-Unis. Alors, la rivalité existait déjà, mais on peut dire que la crise du Covid-19 est venue cristalliser cette rivalité, qui est devenue maintenant structurelle, ancrée aux États-Unis, puisque c'est le seul aspect de la politique de Donald Trump qui est bipartisan. Il a, sur ce plan-là, y compris le soutien des démocrates, et donc ça va être certainement le grand sujet géopolitique des années à venir.
Oui, bien sûr. Alors, ce que je trouve intéressant dans votre livre, il y a plusieurs points, c'est de dire que cette pandémie a démontré la faiblesse du monde occidental.
Oui.
Et que là, c'est vraiment un point marquant qui va changer effectivement la géopolitique.
Et pourtant, cette faiblesse existait déjà. Mais la crise a servi de révélateur à des phénomènes existants que l'on n'avait peut-être pas suffisamment perçus. Qu'est-ce qu'on s'est dit lorsque, par exemple, la Chine a commencé à confiner des millions d'habitants? Elle le faisait parce que c'est une dictature, que ça n'arriverait pas chez nous. Et puis, on s'est dit aussi que les pandémies, c'était l'affaire de l'Afrique et de l'Asie, mais que nous, en Europe, on était à l'abri. Et même quand ça a commencé à frapper l'Italie, en France, on se dit, oui, mais c'est l'Italie, c'est pas tout à fait pareil, leur système n'est pas aussi performant que l'autre. Et en fait, on a bien vu que cette crise a eu un effet dans tous les pays occidentaux qui se croyaient au-dessus des autres civilisations, des autres nations, à un tel point qu'on a vu des fosses communes à New York, alors que l'image même, l'idée même des fosses communes, on la réserve au tiers-monde, mais pas à Big Apple.
Oui. Mais pourquoi? Parce que les Occidentaux se sont crus au-dessus du lot.
Oui, depuis 5 siècles.
Oui.
Ça fait 5 siècles.
Il faut désoccidentaliser notre point de vue.
L'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles, depuis grosso modo la fin du 15e siècle, 1492. Cette domination, depuis déjà assez longtemps, s'érode du fait de l'émergence, du fait de la globalisation, parce que d'autres pays non occidentaux ont également de la puissance. Alors, ce n'est pas que l'Occident a perdu sa puissance, il en a perdu le monopole.
Mm-hmm.
Mais il pense toujours être, parfois, ou du moins certains, pensent toujours que l'on peut toujours diriger l'agenda international comme auparavant. Ce n'est plus le cas. Et si on s'en rend pas compte, eh bien, on va devant la catastrophe. Et effectivement, on a cru que on serait à l'abri d'une pandémie parce qu'on avait les systèmes de santé performants, qu'on était riche, que tout ceci était l'affaire du Sud et pas du Nord. Et puis, ça a été un peu une sorte de juin 40, de révélation tragique que nous n'étions pas aussi préparés qu'on le pensait par rapport à une pandémie.
Mais là, maintenant, ça veut dire comment? Il faut chausser quelles lunettes?
Des lunettes globales.
Ça veut dire quoi?
Simplement,
ça se traduit comment, voyez?
Eh bien, ne pas penser qu'on a forcément raison et que les autres ont forcément tort. Et de prendre en vue, c'est ça le multilatéralisme, c'est de prendre en vue le point de vue des autres, non pas pour leur céder automatiquement, mais de savoir qu'on ne pourra pas imposer une solution uniquement par les rapports de force, puisqu'ils ne sont plus aussi favorables qu'ils étaient auparavant, et que si on veut une réponse globale à un défi global, qu'il s'agisse de lutter contre le réchauffement climatique ou contre une nouvelle pandémie, on ne pourra le faire qu'ensemble et non pas nous contre les autres ou nous sans les autres.
Pascal Boniface, alors, j'ai envie de dire, ce qu'on aurait dû aller regarder, c'est pas forcément ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qu'on aurait dû aller regarder, ce qui s'est passé en Corée, à Singapour, dans des pays qu'effectivement qu'on ne regarde pas. La Corée, bien sûr, oui. C'est la Corée du Sud. Hein.
Oui, alors le fait est que la Corée du Sud, Taïwan, Singapour ont fait face à cette crise de façon beaucoup plus efficace.
Mais c'est pas notre hauteur, c'est pas notre niveau, j'ai envie de dire.
Non, mais d'aller
regarder ce qui
s'est
passé là-bas.
On peut s'en inspirer. Oui. On aurait dû s'en inspirer parce qu'effectivement, ces pays ont l'habitude de ces types de pandémies. De même, d'ailleurs, on peut remarquer que les pays africains, qu'on regarde un peu de haut, finalement, ont un nombre de morts moins important, y compris en termes de nombre de morts par rapport à la population.
Oui, mais c'est normal parce que la population est beaucoup, beaucoup plus jeune.
Oui, effectivement.
Dans certains pays, la population, l'âge moyen est de 15 ans en dessous de 20 ans.
Et que ces pays ne se sont pas crus au-dessus de la pandémie parce qu'ils sont habitués à ce type de risque.
Alors, il y a maintenant la grande question dont on parle beaucoup, c'est effectivement la Chine. Cet affrontement, vous l'avez dit, entre les États-Unis et la Chine. Alors, j'adore cette phrase que vous rappelez de Deng Xiaoping qui avait théorisé « Cachez votre force, prenez votre temps ».
que Xi Jinping...
Je crois que ça résume tout.
Oui. Oui. Alors, effectivement, pendant 30 ans, la Chine a grimpé. Lorsque la Chine rentre à l'OMC en 2001, son PIB représente 10% du PIB américain. Aujourd'hui, on est à 65%. Ouais. Juste pour voir ça, du grand temps de la confrontation soviéto-américaine, l'URSS n'a jamais dépassé 40% du PIB américain. Ouais. Donc, effectivement, la montée en puissance de la Chine pose un problème très net aux États-Unis. Et Xi Jinping, lui, ne veut plus cacher sa force. Il l'exhibe. Ouais. Il l'exhibe, il montre ses muscles, il montre ses masques. Et effectivement, on peut dire que Xi Jinping, lui, veut affirmer haut et fort que la Chine va redevenir la première puissance mondiale. C'est un objectif assumé, alors que Deng Xiaoping avait un comportement plus profil bas.
Oui, mais la question, effectivement, Xi Jinping change énormément de choses dans l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis de la Chine. Cela dit, est-ce qu'ils ont envie de devenir la première puissance mondiale économique? Est-ce qu'ils ont envie de devenir la première puissance géopolitique?
Cela va un peu, l'un va un peu avec l'autre, mais... dans décalage, dans le temps. Finalement, les États-Unis sont devenus la première puissance stratégique au milieu du XXe siècle, alors qu'ils étaient dès le début du XXe siècle la première puissance économique. Ce que disent les Chinois, c'est qu'ils ne veulent pas imposer leur régime, leur vision.
L'hégémonisme ne fait pas partie de leur culture, de leur histoire.
Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que même si la Chine n'est pas une démocratie, loin de là, finalement, les Chinois n'ont jamais été aussi heureux que depuis les 30 dernières années, et qu'il y a pour cela une certaine adhésion au régime. Alors, en même temps, ils disent qu'ils ne veulent pas imposer leur régime aux autres nations, mais on voit bien quand même que dans les différentes instances internationales, ils veulent imposer quand même le rapport de force, leur vision. Ils ne veulent surtout pas qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Ils veulent être maîtres chez eux. Et donc, il y a effectivement un bras de fer qui commence et qui est de plus en plus affirmé. On le voit par ailleurs sur Hong Kong.
Alors, un bras de fer qui est d'autant plus compliqué ou fort que les États-Unis deviennent ce que vous appelez une superpuissance erratique, ou du moins avec un président erratique, qui lui ne voit qu'une chose, c'est l'élection 2020.
C'est ça la grande différence entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Donald Trump, c'est que Xi Jinping, lui, vise 2030, voire 2040. Donald Trump, lui, son seul horizon, c'est le 3 novembre 2020, et il s'arrête à là. Et donc, on a un président aux États-Unis qui a vraiment une vue à coup très court terme, qui ne pense qu'en termes électoraux. Lorsque Xi Jinping fait la diplomatie, il pense à la puissance de la Chine dans le monde. Lorsque Trump fait de la diplomatie, il pense à sa réélection et à flatter ses électeurs. Effectivement, on peut dire que son slogan « Make America Great Again » a fait pchit et qu'il facilite le travail des Chinois. Et on ne peut être pas loin de penser que finalement, Donald Trump, malgré son caractère brutal, les Chinois s'accommodent très bien de sa présidence parce qu'il permet la désertion américaine de la scène internationale, permet à la Chine d'avancer.
Il y a une phrase, je crois qu'en fait, c'est vous qui résumez extrêmement bien ce qui se passe, Pascal Boniface, c'est, vous dites, c'est certainement la fin, c'est pas la fin de la mondialisation, mais c'est la fin de l'ivresse de la mondialisation.
Oui, effectivement.
C'est très exact comme terme.
On pensait qu'il n'y avait plus de frontières alors qu'elles existaient. Penser qu'il n'y avait plus de frontières, par exemple, à la frontière des deux Corées ou dans de nombreux endroits. Mais on pensait que tout allait s'améliorer, que l'Occident allait imposer sa volonté, ses normes partout et que les autres peuples nous accueilleraient dans
l'enthousiasme. Oui, mais là, ça dépasse cette ivresse de la mondialisation. C'est tout le monde voulait être une firme internationale. On produisait... il y avait une sorte de répartition des tâches. Oui. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a cette volonté de retrouver une certaine production locale un peu sur tous les secteurs. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On verra ça.
Et jusqu'à tel point, on verra, parce qu'on ne va pas échapper. Là, pour l'instant, on se dit, on a tiré les leçons de la crise. Très souvent, on l'a vu dans les crises précédentes, une fois que la crise est passée, les mauvaises habitudes reviennent. Et donc, il y aura peut-être des relocalisations, mais on ne va pas fermer les frontières. Les frontières fermées ne resteront pas très longtemps. Et de nouveau, le tourisme va reprendre. De nouveau, les échanges vont reprendre. Là, c'est une phase, effectivement.
Est-ce que, juste en conclusion, est-ce qu'il y aura le monde d'après, le monde d'avant? Vous y croyez, vous?
De toute façon, le monde d'après, oui, mais à condition qu'on tire les bonnes leçons. Il y a eu des signaux. On était averti qu'une pandémie pourrait bloquer le monde. Voilà. De nombreux rapports l'avaient dit. On n'en a pas du tout tenu compte. Là, de nombreux rapports disent qu'il y a une crise climatique qui peut arriver. Est-ce qu'on va en tenir compte? Pour l'instant, les déclarations sont plus importantes que les actions.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, toujours très intéressant, Pascal Boniface. Donc je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique du Covid 2019, ce que nous a révélé cette crise sur notamment nos faiblesses et faiblesses des Européens. Et c'est donc publié aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Boniface. Dans un instant, c'est Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI. Avec lui, on parlera de l'urgence climatique. Pas si urgent que ça pour les chefs d'entreprise. Il a quand même mené une enquête qui montre qu'il faut peut-être vous réveiller. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Merci d'être avec nous, Nicolas Dufourcq. Beaucoup de questions. Alors, il y a d'abord le Tour de France, à défaut du vrai Tour de France que vous, vous organisez de vôtre. Rêvez, osez, entrepreneurs, vous allez à la rencontre des familles, des chefs d'entreprise. On en dira un petit mot tout à l'heure. Il y a votre journal Optimiste, vous venez de tweeter ça, j'ai vu. Oui. C'est quoi, vous vous lancez dans la presse écrite maintenant?
C'est-à-dire que notre journal interne s'appelle Optimiste.
Oui. Et voilà. C'est un signe.
Et ça dit quelque chose quand même.
Oui. Oui. Et voilà. Ça dit quoi?
Bah, ça dit le fait
que vous avez envie de.
Ce qu'on dit, c'est que plus que jamais, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Donc, on s'organise, on se finance, on s'équipe et on attaque la face nord. Il y a pas de sujet.
Comment est-ce que vous voyez, on parlera de l'urgence climatique, parce qu'il y a une enquête vraiment très intéressante. En plus, je trouve qu'il fait un peu écho à celle que vous avez présentée, c'était déjà il y a quelques années, sur l'urgence numérique.
Oui,
avec des chiffres qui montraient qu'il y avait un défaut de prise de conscience. Ça m'a un peu amélioré. Là, on est sur l'urgence climatique. Mais d'abord, la reprise d'activité, vous la voyez, on est en V. Il y a des chiffres qui sont plutôt bons. Comment vous la sentez à BPI?
Alors nous, on l'a quand même un peu prédit. Et on la sent très fortement en V fort. Hein. Donc c'est vraiment une reprise en racine carrée. Et tout le sujet, c'est d'aller chercher les derniers points du haut qui font que le plateau de la racine carrée soit le plus haut possible. Mm-hmm. Voilà. Hein. Donc là, on est dans la phase où ça remonte à toute vitesse quand même. Hein. On le voit bien d'ailleurs dans nos entreprises. On est au capital directement indirectement de 4000 entreprises. Et on a refait les valorisations pour le 30 juin. On aurait pu se dire d'ailleurs au début de la crise du Covid que ça allait être moins 30%. C'est seulement moins 10%. Hein, c'est-à-dire que la chute de valo de tout ce qui est non coté dans notre portefeuille, 4000 entreprises françaises, tous les territoires, 10% seulement. Donc ça veut dire que les carrés de commandes sont quand même encore tout à fait pleins, les gens produisent. La question qui va se poser, c'est le renouvellement de ces commandes-là. C'est ce qu'on appelle le book to bill, hein, c'est-à-dire les nouvelles commandes.
Ouais.
Et elles ne viennent pas.
On rattrape les commandes qui n'ont pas pu être honorées, quoi, quelque part.
Oui, mais qui étaient profondes. Il y avait un gros carnet de commandes de l'économie française, hein, donc qui permet de tenir avec le PGE un bon nombre de mois. Le sujet, c'est les commandes pour l'année 2021.
Et là?
Et là, c'est pas en juillet 2020 que ça se fait. Hein, donc tout va se jouer dans la psychologie collective du mois de septembre.
Oui, non, mais si je pose cette question, parce qu'en fait, on voit bien ce qui se passe chez Airbus, ou chez Airbus, on veut dire, ils ont un carnet de commandes gigantesque.
Ouais.
Donc pourquoi est-ce qu'ils virent 15 000 personnes? Mais parce qu'ils disent, parce que le carnet de commandes, il a du mal, on voit pas le futur.
Oui, et leur secteur a changé. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont changé presque pour toujours avec cette crise. En effet, le transport aérien, avec le voyage d'affaires qui connaît une révolution radicale. On va, je pense, beaucoup moins voyager en voyage d'affaires. On fera beaucoup plus de réunions téléphoniques ou en vidéo. Ça pose beaucoup de problèmes pour l'hôtellerie d'affaires aussi, hein, ça c'est sûr. Et voilà, donc vous avez des secteurs comme ça qui ont changé pour toujours. Vous avez d'autres secteurs qui n'ont pas changé pour toujours, hein, et qui donc vont rattraper.
Quels sont là où vous voyez le V en racine carrée? C'est mon professeur de mathématiques doit se retourner dans sa tombe. Mais dans quel secteur? Quels sont les secteurs? Les bâtiments, ça repart très très fort.
Oui, le bâtiment, mais tout le bâtiment, y compris les petits entrepreneurs, les TPE, etc. Tout le digital, honnêtement, le digital va vraiment très très bien. Le commerce est très bien reparti aussi, hein, honnêtement. L'économie des services également. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, mais encore une fois, on est optimiste quand on se bat. C'est parce qu'on est au combat qu'on est optimiste. Il y a un gros travail à faire d'énergie pour que, encore une fois, on aille attraper les 4 ou 5 points du haut de la reprise qui font qu'on reviendra au niveau d'avant.
Ouais. En termes de prêts garantis par l'État, il y a beaucoup d'interrogations. D'abord, hier, je recevais Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, qui est la première banque. Hein, donc, grosso modo, on fait 25% du business.
Ils ont fait un gros travail. Oui.
Donc, 500 000 distribués. Vous êtes à combien? Enfin, BPI, le total, c'est à votre avis, c'est combien de PG ont été distribués?
Alors, au total, aujourd'hui, pour résumer, hein, pour les auditeurs, on est à 100 milliards et 550 000 entreprises. Mais il y a en plus dans le tuyau, à l'instruction en ce moment, pratiquement 100 000 entreprises de plus. Hein, voilà, donc ça continue de monter, ça monte, ça dépend des semaines, mais entre 1 et 2 milliards d'euros par semaine.
Ça continue à monter.
Oui, et ça va continuer tout le second semestre. Mmh. C'est quand même un produit formidable. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une proportion très importante de PGE que j'appellerais PGE d'opportunité.
Ou PGE, mais d'aubaine.
Ou PGE de confort.
Oui, c'est-à-dire. Hein,
PGE de confort. Aubaine, c'est un peu péjoratif, mais PGE de confort, c'est un PGE au cas où. Hein, ouais. Et qui sont donc qui sont décaissés, mais qui sont simplement dans la trésorerie des entreprises. La trésorerie des entreprises a beaucoup monté là, hein. Ouais. Beaucoup.
Mais non, mais parce que je disais aubaine, parce que je recevais Pierre Ferracci, que vous connaissez bien, le patron du groupe Alpha, qui disait qui donc lui est dans quasiment tous les dossiers en difficulté, et il disait qu'il y a quand même il y a des banques aussi qui ont dit vous devriez transformer votre prêt en PGE parce que c'est garanti par l'État à hauteur de 90%, donc la banque elle prend pas de risque, elle prend moins de risque. Vous êtes d'accord, vous l'avez vu ça, vous avez vu passer Nicolas Dufourcq.
On l'a vu un peu, mais c'était pas du tout dans le contrat moral du PGE. Le PGE n'était pas fait pour ça. Hein.
Non, mais on est bien d'accord, c'est pour ça que j'ai dit des effets d'aubaine ou des abus.
Oui, mais c'est peut-être anecdotique. Je peux pas le statistiser. Hein. Voilà, et je méfie toujours quand on fait d'une anecdote une statistique.
Oui, d'accord. Donc pour l'instant, mais à la limite, ça serait logique, hein, ça serait une bonne gestion presque.
C'est pas fait pour ça.
Ouais. Les secteurs où il y en a le plus, PGE.
Oh, écoutez, c'est toute l'économie française, mais prenons le tourisme. Le tourisme, on avait dit qu'on irait vers 10 milliards d'euros, on est en train d'y arriver. Hein. On est à 9, là. 9 milliards d'euros dans le tourisme. Hein.
Et encore l'été pas passé, si je veux
dire. Et ça représente 90 000 entreprises.
Ouais. Nous, ce qui nous a frappé, parce que, comme vous savez, ici, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise, hein, et donc, certains, y compris Nicolas Wouzé, de Galeries Lafayette, c'est peut-être le cas maintenant, hein, mais qui disait, nous, on a demandé un PGE, on l'a toujours pas. Pourtant, les Galeries Lafayette, la famille Wouzé, ils pèsent, ils sont pas au bord du dépôt de bilan, même si la situation est compliquée pour eux. Il y a eu pas mal de, on a un petit peu,
c'est-à-dire qu'à chaque fois.
Je sais pas, on se demandait toujours, pourquoi, tiens, lui, il a un PGE, lui, on n'a pas, vous voyez?
Oui. Alors, quand vous avez plusieurs banques, c'est ce qu'on appelle un pool. Ouais. Il faut que les banques se mettent d'accord sur la manière dont elles se partagent le PGE. Voilà. Donc, parfois, ça prend du temps. Au cas particulier des Lafayette, je constate que ça prend du temps.
Oui, il n'y a pas un moment où on peut dire, parce que ça fait.
Il suffit qu'il y ait une banque qui dise, ah ben non, mais moi, je viens pas. Et puis, alors, tout s'arrête.
Non, c'est que la banque dit pas, je viens pas. Je dis, ok, mais derrière, il y aura un autre prêt à un taux beaucoup plus élevé. C'est ça le problème. Parce que comme les banques, elles ne peuvent pas faire de commission sur les PGE, elles essaient de se rattraper. Bon, vous direz, c'est leur business, c'est possible, là-dessus.
Tout à fait. Donc le PGE, le taux est connu à un an. Il va falloir qu'il soit connu à 6 ans, puisque c'est un prêt à 6 ans. Hein, donc c'est une vraie question qui est en train d'être posée là. Pour ce qui est de BPI France,
faire,
en tout cas,
qu'est-ce que vous pouvez faire?
Nous, on a dit que notre prêt à 6 ans serait pour les PME à 1,8%.
Et les banques? Donc pour l'instant,
Les banques pour l'instant. D'ailleurs, ça ne leur était pas demandé dans le contrat du PGE du départ. Hein.
Oui, mais là, il y a une erreur de fait.
Non, la part
de Bercy, non, quand même.
Non, c'est pas forcément une erreur. C'est que les banques se sont engagées à ce que le taux d'intérêt qui sera facturé en mai 2021 soit égal au prix de la garantie d'État plus le coût de la liquidité de l'époque. Bon, le coût de la liquidité en mai 2021, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est inconnu. Maintenant, on peut se dire qu'avec le TLTRO de la Banque Centrale Européenne et l'afflux massif de liquidités, le coût de la liquidité sera faible.
Ouais. Oui, donc finalement, c'est pas si simple que ça, vous voyez. Ce PGE, ça a été formidable, mais derrière, on voit qu'il y a des complexités.
Ah, c'est comme un produit technique.
Oui, d'accord. L'urgence climatique,
Dufourcq,
vous avez mené une enquête auprès de 1000 dirigeants de PME ETI. Alors, c'est intéressant, il y a 80% qui disent, bien sûr, il y a une urgence climatique, il faut qu'on... Voilà, on a pris conscience de cette urgence climatique. Oui. Puis après, vous leur posez la question en disant, bon, ok, et vous, qu'est-ce que vous faites?
Oui.
Ben, seulement 13% qui vous disent, on fait vraiment quelque chose.
C'est ça.
Vous dites qu'il y a vraiment urgence de votre côté.
Absolument. Donc, effectivement, le point le plus important de cette étude, c'est qu'on voit que les entrepreneurs sont immergés dans un contexte social, y compris leurs propres enfants, qui font qu'ils ont conscience du problème. Voilà. Oui. Ils ont été, comme on dit, conscientisés, complètement. Maintenant, comment faire et que faire? Et très peu ont commencé à travailler le sujet. Tous disent avoir besoin de financement pour le faire, et on sera là. Hein. Mais tous disent aussi, on voit bien, avoir besoin d'accompagnement. Donc il va à nouveau falloir faire du porte-à-porte de masse avec des accompagnateurs, des consultants pour aider les entreprises à se décarboner.
Oui, alors...
Ça ne va pas se faire tout seul.
Ah non, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'action significative. Les 13%, ils déclarent pouvoir réduire de manière importante leur émission carbone dans les 5 ans, mais ils ne savent pas très bien comment le faire.
Hein. Oui, oui. C'est...
Alors maintenant, vous allez leur dire quoi? Parce qu'on voit bien qu'il faut un financement, tout ce qui est rénovation thermique,
oui.
Il y a un plan qui va arriver. Demain, je reçois Pierre-André Tchalinda, le patron de Saint-Gobain, qui est justement en charge de ce plan de rénovation thermique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut des incitations financières? C'est ce qu'ils demandent, en tous les cas, à hauteur de 64%.
Oui.
On veut dire, c'est assez classique.
Oui. Oui, et d'ailleurs, il y en aura. Mais il faut beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut un savoir-faire de décarbonation d'une entreprise. Ouais. Ça, c'est, voilà. Donc, c'est assez technique tout de même. Hein. Et c'est pour ça que je dis qu'il va falloir de l'humain. De l'humain, c'est-à-dire des consultants, de la présence dans l'entreprise avec l'entrepreneur pour bâtir le plan de décarbonation. Si on veut aller très vite, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, ça prendra 15 ans.
Mais donc, c'est qui, vous voyez
Quantité de consultants savent faire ça. Hein. Les grands groupes ont commencé à s'équiper. Ils ont, comme d'habitude, toujours beaucoup d'avance. Donc, il y a toute une profession qui est en train de se structurer, de gens qui sont les spécialistes de comment est-ce qu'on fait pour décarboner une entreprise. Et c'est une multitude de petites choses à faire. Hein. C'est des recettes de cuisine, beaucoup. Ça passe pas mal par la digitalisation. Mais la question qu'il faut se poser, c'est dans la chaîne de la valeur. Comment est-ce que vous décarbonez-vous? Comment vous faites en sorte que vos clients soient décarbonés et que vos fournisseurs soient décarbonés? Et vos fournisseurs de rang 1 et 2. Hein, voilà. Ça peut conduire d'ailleurs à des relocalisations, parce que le transport est très carboné. Ça peut conduire à des relocalisations. Vous prenez une décision qui est que, pour certaines choses, vous n'allez plus les acheter en Asie. C'est trop carboné. Et tout s'enchaîne ensuite.
Il faut plutôt des subventions, des aides fiscales. Il faut quoi comme incitation?
Moi, je pense qu'il faut beaucoup de financement crédit.
Oui.
Hein, il faut...
Un crédit qui serait basé sur quoi? Puisque ça, c'est vous qui allez le faire, sans doute, à BPI France.
On va en faire beaucoup, bien sûr. On en fait déjà énormément. On en fait pratiquement 2 milliards d'euros par an. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, c'est on finance en fait des champs photovoltaïques, des éoliennes. Donc le crédit.
Oui, mais c'est différent. Moi, je suis du côté des entreprises. Une entreprise,
voilà.
C'est l'entreprise
et
qui se dit, moi, je veux me décarboner.
Donc,
qu'est-ce que je fais?
Et donc là, vous prenez des prêts sans garantie, qui sont des prêts longs, un peu comme le prêt de tourisme qu'on a fait et qu'on a annoncé il y a maintenant un mois. C'est un prêt à 12 ans, hein. Donc vous prenez des prêts longs, sans garantie, et c'est des prêts qu'on vous octroie à condition que vous ayez un plan de décarbonation. Et d'ailleurs, on va vous aider à le monter.
Et donc vous, ça va transformer quand même encore une fois BPI France.
C'est notre nouvel horizon.
C'est votre nouvel horizon.
Oui.
Vous avez le numérique, où il y a eu la crise du Covid, et puis là maintenant...
On a deux gros blocs de priorités là, qui sont le climat et l'usine du futur. Hein, voilà, donc le coq vert et le coq bleu.
Oui, l'usine du futur, c'est assez lié avec le coq vert.
Et
le
en
coq
fait,
bleu,
c'est
on s'en souvient, à chaque fois vous venez, du reste vous ne l'avez pas avec votre pins, mais maintenant il y a le coq vert de l'autre côté, mais en même temps, il y a un moment, ça va devenir un peu vert quand même.
Absolument, ils sont tout à fait liés maintenant.
Oui. Les chefs d'entreprise, quand vous leur tenez ce genre de discours, Nicolas Dufour, qu'est-ce qu'ils ils vous répondent quoi? L'usine du futur, mais encore faut-il construire une usine?
Non, mais il y a quand même encore quantité d'usines en France, faut pas dramatiser.
Il y a
quantité d'usines en France et on continue d'en faire monter. Hein. Bon, avant la crise du Covid, on était content parce qu'on avait atteint enfin un stade où on ouvrait plus qu'on ne fermait.
Mmh.
Voilà. Et on va essayer de s'en tenir là. Il y a un certain nombre de catégories qui doivent dans les esprits changer aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez des start-up qui deviennent en fait des ETI industriels très vite. Et qui font monter des usines. Prenez une entreprise comme Insect, par exemple, hein, qui fait des produits à base de... Bon. Et cette entreprise est en train...
Oui, expliquez, parce que moi je connais, mais expliquez.
Insect, c'est une entreprise qui fait de l'alimentation animale à base d'insectes. Et c'est des process très lourds. Et donc elle est en train de construire une usine de 40 000 m² à Amiens. Donc les usines, ça va pas venir simplement du vieux terreau de l'industrie familiale des territoires. Ça vient aussi de tout ce monde de la tech française qui finit par aboutir et advenir et créer et faire monter encore une fois des usines.
Là, vous en avez repéré combien des boîtes comme Insect?
Des boîtes comme Insect, alors...
Qui sont des startups, comme vous dites, et des ETI, parce que c'est un parcours exceptionnel. Mais je dirais, il faut pas que ça soit exceptionnel.
Non, mais aujourd'hui, on est de l'ordre d'une cinquantaine, quand même. Hein. Et pourtant, tout est récent.
Mm-hmm.
Donc je pense... Notre plan, on a un plan qui s'appelle le plan Deep Tech, je sais pas si vous vous souvenez, donc consiste à financer massivement le transfert de technologie de la recherche vers les startups.
C'était venu ici même en parler,
Et en fait, l'aboutissement du plan Deep Tech, c'est la construction d'usines en France. Hein, parce que la deep tech, c'est tout ce qui n'est pas digital, c'est tout ce qui fabrique des objets. Et quand vous fabriquez des objets, il faut bien les fabriquer quelque part. Donc plutôt que de les fabriquer à Shenzhen avec des coûts ensuite en transport importants, on peut tout à fait les fabriquer dans des usines ultra-modernes, automatisées, en France. Et c'est ça qu'on fait.
Là, on parle, il y a le pacte productif, c'est quelque chose d'important. Bruno Le Maire s'est beaucoup exprimé là, tout récemment, pour expliquer que les impôts de production, il fallait qu'ils baissent.
Oui.
Genre, c'est Philippe Darnano, le patron de Sisley et des ETI, le mouvement des ETI. Il y a urgence. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous ressentez lorsque vous voyez vos chefs d'entreprise
tout à
face
fait.
À vous? Est-ce que c'est... Tout d'un coup, on a l'impression que c'est devenu absolument l'obstacle majeur à l'installation d'usines.
La prise de conscience s'est faite progressivement, mais elle est forte maintenant depuis quelques années. Hein.
Oui, parce que vous pouvez pas... en disant, c'est ce que me répondait Philippe Darnano.
Vous ne pouvez pas avoir à la fois l'euro, qui est la même monnaie pour les Allemands et pour les Français, et pour les industriels allemands et les industriels français, pas les mêmes conditions. Vous êtes obligé de vous aligner sur les conditions fiscales du Mittelstand allemand si vous voulez rester compétitif. Mm-hmm. Or, nous n'y sommes pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le ministre des Finances. Il faut traiter la question des impôts de production. C'est fondamental.
Ouais, pour pouvoir relocaliser en France. J'ai une question de fond sur BPI France, Nicolas Dufour. Est-ce que vous pouvez tout faire? Vous voyez, il y a un moment où chaque fois qu'il se passe un problème, on se tourne vers BPI France. Là, maintenant, c'est l'urgence climatique, après le numérique, après le Covid, oui. Après le financement des start-up, après le financement du plan tourisme. Il y a un moment où vous allez devenir gigantesque, presque encore plus gros que la Caisse des dépôts qui est votre actionnaire. Quoi, vous voyez?
Non. En fait,
vous ne pouvez pas tout faire. Il ne faut pas démultiplier ce genre de...
Alors, d'abord, qu'on se comprenne bien, tout ce qu'on fait, on le co-fait avec quelqu'un. Donc, quand on fait un crédit, il est co-financé par une banque privée. Quand on investit, il y a un co-investisseur privé. Donc, il y a des effets multiplicateurs énormes. Hein. Donc, nous, on est le premier barreau de l'échelle, et ensuite, ça monte. Voilà. On a toujours dit qu'on était la banque coup de pouce. Et on veut le rester. On ne veut pas devenir une grosse organisation. Hein. On est 3200 salariés. Je n'ai pas du tout envie de monter une entreprise de 10 000 salariés. Pas du tout. Ensuite, nos produits sont toujours les mêmes. C'est du prêt avec garantie, du prêt sans garantie, et du conseil. Mm-hmm. Les constantes de base sont toujours les mêmes. Hein, donc la sauce secrète est toujours la même. Simplement, on l'applique à des priorités qui, elles-mêmes, évoluent. Donc la priorité, celle qui est en train de devenir cardinale, évidemment, hein, c'est la transition climatique et la transition digitale. C'est ce que nous a dit la crise du Covid. On avait déjà commencé. On était déjà une grande banque du climat et une grande banque du digital. On va en faire plus.
Le numérique, c'est quand même très important. Cela dit, on a besoin aussi d'avoir des infrastructures. Je reviens juste sur un point avant de parler de votre Tour de France. Vous avez dit tout à l'heure que lors de la valorisation, vous avez dû faire un point, la valorisation au 30 juin. Mm-hmm. Donc là, vous l'avez faite. C'était que 10%. Mais comment avez-vous fait pour déjà prendre l'ampleur de la crise? Vous voyez, c'est pas facile. Oui. Pas facile. Je recevais le président de la Chambre régionale des cours de compte de Paris, oui. Olivier Salustreau. Il disait, c'est pas évident de mesurer l'impact. Vous dites 10%, mais peut-être que finalement...
Mais en l'occurrence, c'est pas nous qui disons 10%.
Oui,
c'est une information remontante des 4000 entreprises.
Oui.
Hein, qui ont actualisé leur business plan, qui ont travaillé avec leurs investisseurs, et qui ont remonté des valorisations qui sont ce que j'indique là. Donc je le prends plutôt comme une information très positive.
Hein? Est-ce que vous allez reprendre des participations significatives dans des entreprises françaises qui sont malmenées? Augmenter les participations, rappeler quand même que vous êtes dans les plus grosses entreprises françaises.
On se prépare, on a un gros portefeuille industriel.
Oui, bien sûr.
Donc on se prépare à faire des réinvestissements significatifs. On pensait que ça viendrait plus vite, la demande de réinvestissement. En fait, non. Hein, donc probablement que ça sera dans le courant du second semestre. Et puis sinon, non, le marché des fonds propres est très actif. On travaille en ce moment sur un grand nombre de dossiers, aussi bien sur nos fonds propres que sur le fonds Lac d'Argent que nous gérons désormais.
Mais combien? La dernière fois, je vous ai posé la question, vous m'avez dit, on réfléchit, je ne peux pas vous répondre, mais ça y est, maintenant, vous avez peut-être un peu plus de précision. Type d'entreprise où vous allez rentrer?
On s'est fixé comme objectif d'ici la fin de l'année d'investir 2 milliards d'euros. Mmh. C'est considérable.
Et quelles sont les entreprises qui sont les plus dans votre ligne de mire?
Il y a quantité de TI non cotées, d'une part. Il y a un plan que nous avons lancé qui s'appelle le plan 1200. Nous voulons faire 1200 investissements dans des entreprises françaises en fonds propres entre maintenant et mai 2021, c'est-à-dire 100 par mois. 100 fois 12 mois, 1200. Hein. Mmh. C'est jamais vu. Hein. On n'est jamais monté à ce niveau-là. Hein. Et donc on est en train de le déployer. Ça veut dire des obligations convertibles dans des groupes hôteliers. C'est toute l'économie française qui est touchée. Hein.
La grande question, et on voit bien, il y a plusieurs scénarios qui sont en train de se dessiner sur soit la transformation éventuellement des PGE en quasi-fonds propres,
oui.
Donc avec une reprise dans une grosse foncière, soit effectivement des obligations tout court, indépendamment de ce PGE. À votre avis, il faudra transformer combien de pourcentage de PGE en quasi-fonds propres? Ça sera quoi, 20, 30%,
40%? Je me suis déjà exprimé sur le sujet. C'est-à-dire, je pense que c'est une vue de l'esprit complète que de penser qu'on va transformer le PGE en quasi-fonds propres.
Ben, je sais pas, il y en a qui travaillent dessus,
oui, mais,
le président, la République, donc j'imagine que...
Le président, oui. Je sais pas, oui. Mais je suis pas sûr d'ailleurs. Mm. Mais les fonds propres, même les quasi-fonds propres, c'est-à-dire les obligations convertibles, c'est un produit de niche. Quand vous mettez en batterie les fonds d'investissement français, pardon, ils sont très, très nombreux, plus tout BPI France, vous pouvez faire jusqu'à, mettons, 150 tickets par mois. Vous n'allez pas faire des dizaines de milliers de tickets par mois. Il y a 600 000 entreprises qui ont pris le PGE. Bon, par ailleurs, il y en a énormément qui ont pris un PGE de confort. Et enfin, elles ont de toute façon pris une dette, elles ont pris un crédit. Et on ne peut pas démarrer en se disant qu'elles ne vont pas le rembourser, ça c'est pas possible.
Il y a juste un point à propos de PGE, il y en a beaucoup qui vous reprochent, dans le cadre de la souveraineté numérique, d'avoir confié toutes les données qui remontent chez vous, puis c'est vous qui êtes le gestionnaire des PGE, à Amazon. On n'est pas dans la souveraineté numérique, là, on est chez les Américains.
Oui, mais il faut éviter les raccourcis, évidemment, comme toujours. Donc on a une stratégie, on est une grande banque, on a une stratégie cloud. C'est une stratégie multi-cloud.
Oui. Hein,
donc on a signé des contrats avec Amazon Web Services, avec Azure de Microsoft, et avec OVH. Quand nous avons fait cet appel à candidature, c'était l'été dernier, hein, la réponse technologique, notamment pour tout ce qui concerne la couche software de Amazon, était la meilleure. Nous avons quand même fait auditer la solution par l'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique, et donc qui a mis son tampon sur la solution, et puis surtout, toutes les données sont cryptées. Et la clé de cryptage, elle est chez nous. Mm-hmm. Hein, donc il est impossible pour le gouvernement américain d'avoir accès à ces données.
Ouais.
Absolument impossible. Bon. Maintenant, quand OVH sera en mesure d'aligner une prestation software, non pas hardware, mais software tout à fait comparable, évidemment, on regardera d'autant plus OVH qu'on est actionnaire.
D'accord, comme ça, au moins, voilà, vous nous avez en partie rassurés. Bon, ce Tour de France, on finit par quand même quelque chose d'assez festif. Votre Tour de France, ça s'appelle le Big Tour.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez déjà fait, hein, du reste, mais là, vous le réorganisez.
L'année dernière, tout à fait. Et donc, on démarre, je le lance le 29 juillet au Vieux Boucau.
Oui.
Et nous allons, effectivement, jusqu'au 19 septembre, faire 25 étapes. Et la dernière grande étape étant le Big du 1er octobre. Mm-hmm. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, l'énergie, ça se construit aussi. Hein. C'est-à-dire que l'énergie des entrepreneurs, ça se met en scène, ça s'héroïse, ça se construit. Et c'est une opération qui est destinée à donner la niaque à tout le monde.
Mm-hmm.
C'est pas plus bête que ça.
Oui, ça c'est un point important. Il faut raconter les histoires, en fait.
Il faut raconter les histoires, il faut que les gens soient heureux. Et puis, il faut encore une fois, que si nous croyons, nous, que tout est possible, il faut que ça se sache.
Vous croyez, ça sera ma dernière question, vous croyez dans le fait qu'on puisse relocaliser en France des usines, de la production?
Oui, je crois, tout à fait. Alors, il peut y avoir d'abord des très grandes usines, mais ça, il y aura un nombre limité de cas particuliers, avec des très gros investissements. Hein. Mais c'est surtout plutôt quantité de petits ateliers pour des bouts de chaîne de la valeur. Hein. Notamment pour des raisons, comme je disais tout à l'heure, climatiques. Mais parce que la techno le permet maintenant.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir tout de suite, voir très très grand.
Non.
C'est des bouts de la chaîne de valeur.
Bien sûr. Il ne s'agit pas de faire flin ou de faire crawl.
Oui.
Il s'agit de relocaliser des bouts de chaîne de la valeur. Et il peut y en avoir de très nombreux.
Ça, c'est un point important. Oui, on voit bien à travers les témoignages. Merci, Nicolas Dufour.
Merci beaucoup.
Big Tour. Le patron donc de BPI France. Et puis surtout, je vous conseille cette étude. On apprend plein de choses sur l'urgence climatique dans le concret. Ce n'est pas si simple que ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. Nous, on se retrouve demain. Bah, tiens, 8h15, Pierre-André de Chanada, le président de Saint-Gobain, justement, qui doit remettre ce rapport sur la rénovation thermique. Et puis, je recevrai à 12h30 demain François Villeroy de Gallo, là aussi, le président-gouverneur de la Banque de France. On parlera de ces questions d'activité si on est dans une courbe en V au carré. Merci beaucoup. À votre journée.